France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation? Philosophes, historiens et sociologues aussi ont ce livre, ce texte, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leurs pensées. Chaque vendredi, l'un d'entre eux vient nous en parler et aujourd'hui, notre invité, philosophe, a choisi d'évoquer un petit conte inquiétant et inachevé. Un petit conte sur une taupe paranoïaque qui n'a qu'un rêve, celui de bâtir le terrier parfait, à l'abri du monde, de ses bruits et de ses dangers, jusqu'à faire de son chez-soi le lieu de toutes les menaces. L'auteur d'un tel conte, Franz Kafka, évidemment.
Ja, also ich hielt einen Vortrag über Schopenhauer. Nach dem Vortrag kam Kafka, den ich noch nicht kannte, zu mir.
Je donnais une conférence sur Schopenhauer. Et après la conférence, Kafka, que je ne connaissais pas, est venu me voir pour me parler. Et il m'a accompagné chez moi. Et directement, il m'a demandé « Pourquoi est-ce que vous avez dit ça et ça ?» Et la discussion s'est prolongée très après minuit. Il était très mince et dégingandé, une tête et demie de plus que moi, plus grand que la moyenne. Avec des yeux gris brillants et des cheveux noirs épais. Avec une apparence très soignée et élégante. Certaines personnes veulent le voir comme un bohémien, mais ils ne l'ont pas connu. Il était d'une discrétion marquée et habillé élégamment. Il n'était pas dépressif comme on le voit maintenant, mais il n'était pas d'une disposition joyeuse. Et dans l'intimité, il était d'une finesse et d'une acuité charmante.
Bonjour Peter Zandi.
Bonjour.
Bienvenue dans le souffle de la pensée. Vous êtes philosophe, musicologue, professeur en littérature comparée et en humanité à l'université Brown aux États-Unis. Vous êtes l'auteur de plusieurs essais sur l'écoute, la lecture, le cinéma. Le plus récent, je le cite, s'intitule « Faire son cinéma ». Il est disponible aux éditions Bayard. Pourquoi avoir choisi Kafka ?
Alors pour moi, ce récit en particulier, le monde de Kafka en général me fascine depuis longtemps, je suis loin d'être le seul évidemment, mais ce récit en particulier, le terrier, d'une certaine manière, est lié à des souvenirs d'enfance. C'est mon père qui m'a transmis cette passion pour Kafka, et en particulier pour ce récit.
Qui est plutôt inconnu quand même, enfin, ou méconnu, je devrais dire, le terrier, voilà.
Oui, le terrier, c'est le dernier récit, le dernier grand récit de Kafka qui est resté inachevé, et puis il a pas le statut des grands romans ou des choses.
La métamorphose.
Voilà, il a jamais atteint cette notoriété. Moi, alors c'est drôle parce que le titre, le terrier, en allemand c'est Der Bau. Moi, je l'entends en hongrois parce que c'est mon père qui m'en a parlé, et c'est très beau en hongrois. En hongrois, on dit az odu, odu, c'est le terrier, ça résonne presque dans mon oreille avec l'adjectif doux en français. Donc il y a quelque chose d'une douceur du chez-soi qui est lié à ce récit. Bizarrement d'ailleurs, parce que c'est plutôt un récit paranoïaque, comme vous l'avez dit, un récit sur à la fois le fait d'être chez soi, mais chez soi en tant que le chez-soi est un lieu où on est menacé, un lieu qu'il faut défendre. Voilà. Donc ce récit me travaille, m'habite depuis longtemps. Et puis à un certain moment, j'ai assisté au séminaire de Jacques Derrida pendant quelques années. C'était très très important pour moi. C'était les deux années où il a parlé de l'hospitalité. Et à un certain moment, il a parlé du terrier d'une façon qui moi m'a beaucoup marqué et intrigué. Enfin, il parlait de ce terrier, de cette construction. Parce que le narrateur de la nouvelle ou du récit est une taupe, c'est pas sûr du tout.
Mais rien n'est dit de tel, voilà. C'est votre hypothèse.
C'est ce qu'on dit souvent, que c'est peut-être une taupe, c'est un animal en tout cas.
Ah, c'est ce qui se dit parmi les lecteurs de Kafka, c'est-à-dire on se dit entre kafkaïens que c'est une taupe.
Oui, souvent, on dit que c'est une taupe, mais enfin, c'est vrai qu'il n'y a aucun indice, si ce n'est que, bon, c'est un animal qui creuse, qui vit sous la terre, bon. Et donc Derrida avait des mots magnifiques dans une séance de son séminaire sur le fait que c'est une construction, d'ailleurs le titre en allemand Der Bau, ça veut dire la construction, mm-hmm. tout simplement. C'est une construction, mais c'est une construction négative, en quelque sorte, puisque tout ce qui est construit, c'est en creux. C'est une construction que l'animal creuse, et donc c'est comme si finalement, pour le dire vraiment trop vite, c'est une construction qui a la forme d'une déconstruction en fait. Derrida le disait pas exactement comme ça, mais enfin moi c'est ça qui m'a vraiment intrigué. Autre raison majeure, et alors là c'est pour ça que je n'ai cessé de lire et relire ce texte et d'y travailler, même quand j'en parle pas, j'y travaille. C'est parce que c'est un grand texte sur l'écoute. Et ça, c'est justement, si on commence à se demander qu'est-ce qu'on fait en écoutant, qu'est-ce qu'on construit quand on écoute, est-ce qu'on construit même quelque chose, la première réponse, c'est non. On fait rien quand on écoute, on ne fait que recevoir. Mais au fond, quand on commence à y réfléchir vraiment, on peut se dire que écouter, si c'est faire quelque chose, c'est un peu faire quelque chose en creux, justement. C'est un peu...
Parce qu'effectivement, cette taupe, ne voyant rien, étant protégée dans son terrier, perçoit quand même des bruits, ou du moins, puisqu'elle ne peut pas voir, et d'autant plus si c'est une taupe, elle voit très mal. Ça, c'est pas dit, mais c'est moi qui l'indique. Effectivement, le son, a une très grande importance dans ce texte-là.
Oui, tout tourne autour du son. Dès le début, très vite, le jeu qui raconte, le narrateur du récit, plutôt que la taupe, parce que c'est pas sûr.
J'aime bien cette idée de taupe.
Moi aussi, et puis ça m'a beaucoup intrigué aussi, parce que j'ai travaillé un peu sur l'écoute et l'espionnage, et en français en particulier, mais en anglais aussi, taupe, c'est presque un synonyme d'espion, au fond.
C'est l'agent double, c'est celui qui est infiltré.
Exactement. La taupe, et en anglais aussi, a mole, c'est quelqu'un qui s'infiltre en effet dans une structure et qui la défait de l'intérieur. Donc qui creuse au fond, qui creuse aussi la confiance, qui sape les bases, qui mine, on peut dire aussi, miner quelque chose. Et donc le son est très très important dans ce récit, parce que à un certain moment le narrateur de ce récit se réveille après avoir dormi longtemps dans son terrier, et là, de manière insidieuse, de manière presque imperceptible au départ, il y a une sorte de bruit, de léger sifflement qui commence à s'amplifier. On sait absolument pas ce que c'est, d'ailleurs le récit s'interrompt sans avoir révélé le mystère, mais finalement toute la deuxième partie de ce récit, après le réveil du narrateur, c'est au fond une sorte d'amplification dans tous les sens du mot, littéraire, sonore, une amplification de ce petit son qui s'immisce en fait dans la construction.
Est-ce que vous le décririez, ce texte, comme un conte? Parce que vous avez effectivement décrit les deux mouvements de ce texte qui est assez court, Peter Zandi, qui fait quoi, une cinquantaine de pages, qui est inachevé, qui est le dernier de Kafka, donc sur cette taupe qui n'est pas nommée. La première partie, c'est vraiment une description presque du terrier, de la routine. On voit bien quand même que les repères spatiaux, temporels, à un moment donné, la taupe sort. Est-ce que c'est une sortie exceptionnelle? Est-ce que c'est une sortie qu'elle fait régulièrement? On a l'impression que oui, mais là, c'est quand même une sortie précise qui est décrite. Et puis, elle revient de cette sortie. Assez angoissante aussi, d'ailleurs, parce que la taupe ne veut pas revenir chez elle. On ne comprend pas pourquoi, mais parce qu'elle veut tout surveiller, même l'extérieur. Elle voudrait se regarder elle-même. Et puis, elle rentre dans son terrier. Et là, deuxième partie de ce texte, effectivement, le bruit surgit. C'est le tournant. On va y revenir, on va écouter un texte. Mais avant ça, est-ce que vous l'appelleriez un conte ?
Alors ça, c'est oui, c'est difficile de caractériser le genre. Hein, le genre
nouvelle.
C'est plus long qu'une nouvelle que ce que traditionnellement on identifie comme une nouvelle. Peut-être, disons, un conte. J'hésiterais un peu parce que il y a une telle une telle immersion dans les détails. Alors qu'un conte, j'aurais plus tendance à dire, mais là je m'aventure sur un terrain qui est pas trop le mien, que en termes de genre, de genre littéraire, un conte aurait peut-être quelque chose de plus droit, de plus simple, un peu plus en ligne droite
On voit où ça va en venir.
Voilà, alors que là, on est pris on est immergé dans des méandres de détails. En fait, d'ailleurs,
il y a une moralité dans les contes.
Oui, il y a une moralité, alors que là, il n'y en a pas. Bon, il n'y en a pas, disons, accidentellement, parce que le récit est inachevé. Après, allez savoir, parce qu'il s'interrompt aussi à un moment quand même très spécifique. Et puis, c'est par rapport à l'idée d'un conte, il y a justement ce côté que vous évoquiez, qui est tellement obsessionnel d'entrer, sortir du terrier, s'assurer que, en fait, l'entrée par laquelle on entre est cachée, donc il faudrait plutôt entrer par une autre. Enfin, c'est incroyable. En fait, d'ailleurs, je crois qu'on peut tous et toutes se rapporter à cette espèce d'obsession qui saisit le narrateur du terrier. Je ne sais pas si ça arrive à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Moi, ça m'arrive souvent, par exemple, de sortir de chez moi et de vérifier deux fois que j'ai donc de fermer d'abord à clé la porte et puis de retourner, d'ouvrir et de refermer. Voilà. Et en fait, pour être sûr.
Alors, ça a pu m'arriver, mais je ne le fais plus. Depuis que j'en parle à quelqu'un, justement. Ah oui. C'est vrai que ça permet de se soulager. Mais il y a la dimension quand même de sexe qui est extrêmement angoissante. C'est qu'en fait, vous, ce qui vous intéresse, Peter Zendy, c'est vraiment l'écoute, en fait. Alors, est-ce que c'est la première question qui vous a surgi pour vous quand vous l'avez lu, découvert grâce à votre père, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez découvert presque a posteriori? C'est-à-dire que le texte a fait un effet sur vous, mais ce n'est qu'après que vous avez compris que tout était là, dans ce texte. Je reviens juste, moi, à mon expérience de lecture, de l'avoir lu non plus tard, pas comme vous, à l'adolescence, m'a angoissée moins sur la dimension de l'écoute que sur justement la sécurité comme inatteignable ou le problème du chez-soi comme lieu de menace. Parce que le terrier que cette taupe s'est construite, il est super. Moi, elle dort bien, elle a plein de provisions, mais elle n'est jamais contente, elle est jamais sûre d'elle, jamais tranquille. Moi, c'est ça qui peut-être un axe qui m'aurait plus touchée. Alors, sur cet axe de l'écoute, comment il vous est apparu? Est-ce que vous l'avez compris plus tard?
Alors, c'est vrai que j'ai pris conscience, de manière générale, au-delà de ce texte en particulier, j'ai pris conscience de cette question de l'écoute plus tard, même si la découverte de ce texte, par exemple, était très liée au fait que mon père me racontait souvent des histoires, et j'écoutais beaucoup, en fait. J'ai écouté beaucoup quand j'étais enfant, et la question de l'écoute est très vite devenue, pour moi, sans que je le sache d'abord, la question de l'interruption, de la ponctuation. C'est-à-dire, écouter en particulier les récits de mon père, c'était se laisser porter par un flux qui était impossible à interrompre. Et plus tard, j'ai vraiment pris conscience du fait que si l'écoute fait quelque chose, finalement, il n'y a pas une grande gamme de possibilités. Quand on écoute, qu'est-ce qu'on peut faire en écoutant? Ben, on peut écouter ou ne pas écouter. Ça paraît vraiment simple et binaire comme
ça. On-off.
Mais en réalité, il y a mille nuances du ne pas écouter et mille nuances de l'écouter. Donc, c'est pas simplement on-off. C'est tout un spectre, toute une gamme de possibilités. Écouter un peu, écouter de manière répétée, déconnecter un peu, couper, ne pas couper. Donc voilà. Donc ça, c'était ça en fait pour moi la question de l'écoute. Et c'est vrai que je l'ai perçu dans ce texte plus tard, même si elle est vraiment au premier plan, même si ce bruit qui est presque une question d'auscultation en fait, c'est comme si ça, c'est une des grandes interprétations de ce texte, c'est que le terrier, cette vaste construction, ça serait comme un corps, en fait. Et donc ce bruit, ce sifflement qui, à un moment, vient menacer le bien-être du chez-soi, ça serait un peu comme la maladie, comme on peut penser à un sifflement pulmonaire, pulmonaires, enfin, il y a toutes sortes de bruits dans le
corps. Des acouphènes.
Des acouphènes aussi, mais je pense que c'est plus des bruits qui sont menaçants en termes de, voilà, comme quand on respire. Oui. Et que les poumons sifflent ou quelque chose comme ça, sachant
quand
que
on fait
Kafka,
de l'asthme.
Voilà, Kafka avait des problèmes respiratoires, sérieux. Et donc voilà, c'est ce côté auscultation de l'espace du chez-soi. C'est ça qui est fascinant.
Et selon vous, Peter Zendi, vous êtes aussi musicologue, voilà, vous avez travaillé sur l'écoute. Pourquoi cette question de l'écoute vous fascine? Vous arrivez à comprendre, en fait, pourquoi ça vous intéresse vraiment de savoir ce qu'on fait quand on écoute?
Alors, moi, ce qui m'a fasciné, ça vient d'une expérience très simple dont on trouve une version à la fin du récit de Kafka, mais une version tournée ou disons pervertie dans son côté paranoïaque. Si on la prend du côté simple et positif, c'est le fait d'écouter pour quelqu'un, en fait. J'ai même trouvé récemment un mot pour ça.
Oui,
un peu comme on parle de destinateur et destinataire dans le courrier postal ou dans les récits, on écrit donc pour quelqu'un. Moi, je parle d'auditeur et aussi d'auditaire. Et donc, l'auditaire, c'est celle ou celui pour qui on écoute, parce qu'on écoute toujours pour quelqu'un, en fait. Il y a toujours quelqu'un qui est là et à qui on adresse son écoute, avec qui on a envie de la partager.
Donc là, par exemple, moi, je vous adresse mon écoute. Je vous montre que je vous écoute, par exemple.
Alors, vous m'écoutez, mais je pense que vous adressez votre écoute aussi à quelqu'un d'autre.
Ah oui?
Oui, je pense. Aux auditeurs, peut-être, qui sont en fait les destinataires de votre écoute. Vous écoutez pour elles, pour eux. Et je pense qu'on est... Enfin, l'écoute est jamais simplement une concentration sur l'objet qui résonne, qui parle, comme moi je vous parle en ce moment. C'est bien sûr ça, mais on le fait aussi toujours en vue de, pour transmettre ce qu'on reçoit, ce qu'on écoute, pour destiner ce qu'on écoute à quelqu'un, à qui que ce soit, au futur, au public. Enfin, voilà, c'est très ouvert, évidemment, c'est destinataire de l'écoute. Donc l'auditaire, c'est une figure qui m'intrigue depuis longtemps. Et dans le récit de Kafka, ce qui est incroyable, c'est qu'à la fin, c'est vraiment une espèce de presque de guerre des écoutes qui se produit, c'est-à-dire qu'il y a dans ce terrier, dans ce chez-soi où l'animal se trouve si bien, le bruit dérangeant s'amplifie, et l'hypothèse qui finit par surgir, qui est très très angoissante pour le narrateur, c'est que il y a probablement un autre animal, peut-être immense, peut-être tout petit, qui creuse. Et donc ça, c'est déjà très inquiétant, mais le plus inquiétant, presque spectral, c'est que le narrateur écoute cet autre animal, mais il se demande si l'autre animal l'écoute aussi. Et donc, ce qu'on imagine, un peu comme si deux mineurs, par exemple, deux mineurs de deux ennemis dans une guerre, creusaient l'un vers l'autre sous la terre, et c'est ce qu'on imagine, c'est est-ce que leurs écoutes vont se rencontrer, voilà. Est-ce que l'un va entendre l'autre comme l'autre entend le premier. Voilà. Donc une espèce de choc des écoutes. Ce qui est terrifiant et en même temps fascinant.
On va écouter un extrait de ce conte, de cette nouvelle de Kafka, Le Terrier, le moment où effectivement le récit bascule puisqu'un son surgit.
J'ai sans doute dormi très longtemps. Je n'émerge que du dernier sommeil, celui qui déjà se dissipait de lui-même. Mon sommeil doit déjà être très léger, car c'est un sifflement à peine audible en lui-même qui me réveille. Je comprends aussitôt. Les petites bestioles, que j'ai beaucoup trop peu surveillées et beaucoup trop épargnées, ont foré quelque part en mon absence un nouveau passage. Ce passage a débouché sur un autre, plus ancien. L'air vient se prendre là et c'est ce qui produit ce sifflement. Que voilà un peuple à l'activité incessante et que son ardeur au travail est fastidieuse. Il faudra que je commence, en auscultant les parois de ma galerie, par localiser l'avarie grâce à des sondages, et ensuite que je supprime ce bruit. Du reste, cette nouvelle tranchée, si d'une façon ou d'une autre elle est compatible avec l'agencement du terrier, pourra aussi constituer une nouvelle aération qui sera la bienvenue. Mais ces petites bêtes, je vais y faire beaucoup plus attention désormais. Aucune ne devra être épargnée. Comme j'ai une longue expérience de ce genre de recherche, cela ne durera sans doute pas longtemps et je peux commencer tout de suite. J'ai encore d'autres travaux qui m'attendent, mais c'est le plus urgent. Il faut que le silence règne dans mes galeries. Ce bruit est au demeurant relativement anodin. Je ne l'ai pas du tout entendu en arrivant, quoiqu'il fût certainement déjà là. Il m'a fallu d'abord me sentir complètement chez moi pour l'entendre. Il n'est en quelque sorte audible que pour l'oreille du vrai maître de maison dans l'exercice de ses fonctions.
Extrait du Terrier de Kafka, lu par Nicolas Berger dans la traduction de Bernard Lortolari. On y entend donc l'éruption de ce son, Peter Zendi. Et on voit bien comment tout à coup, l'esprit de cette taupe est complètement perturbé, si tenté quand même, que voilà, toute la teneur du récit, c'est quand même ça, on est tout le temps dans la tête de la taupe, ce qui est déjà extrêmement angoissant dès les premières lignes quand même. Il faut le dire, c'est-à-dire que l'irruption du son est presque en fait un événement qui à un moment donné nous extrait de l'esprit torturé de cette taupe.
Oui, on peut se souvenir aussi que pour Kafka, le bruit, c'était vraiment un enjeu. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la pollution sonore, de l'écologie sonore. Pour lui, c'était vraiment un enjeu à tel point que vers la fin de sa vie, quand il écrivait le Terrier, il a séjourné pas mal, je crois, chez sa sœur à la campagne, mais il était très dérangé par les gens qui travaillaient, quelqu'un qui sciait du bois, etc. Et il utilisait en fait ce qui était déjà une invention relativement récente à l'époque en Allemagne, des bouchons pour les oreilles, qui avaient un drôle de nom d'ailleurs. Ça s'appelait, je crois, la marque qui existe toujours, il me semble, c'était Oropax. Or, c'est l'oreille en allemand. Oui. Et Pax, c'est le latin, la paix, c'est paisible. Voilà, donc
la paix des oreilles.
La paix des oreilles, voilà. Il utilisait beaucoup ça, mais en fait, ça, il disait que même avec ses bouchons d'oreilles, le bruit était un immense problème pour lui. Et par ailleurs, ce qui est, je crois, intéressant aussi, disons en guise de contexte presque pour ce récit, c'est que on est à peu près dans le contexte de la Première Guerre mondiale. Mmh. Et il y avait beaucoup de gens qui creusaient des tranchées, des galeries souterraines. Et donc il y a une forme d'écoute qui s'est développée, et même des appareils qui se sont développés pour ausculter en quelque sorte les murs des tranchées, pour entendre si le mineur ennemi creusait. On appelait ça des géophones. C'est un peu comme un stéthoscope, si vous voulez, mais qu'on met sur les murs, en fait,
sur les parois
des galeries. Et donc cette taupe, si c'en est une, ou enfin le narrateur,
disons que c'est une taupe,
on va gagner
du temps. Taupe.
La taupe, si c'en est une, eh bien, on a l'impression que c'est l'équivalent d'un mineur, d'un sapeur, comme on disait, des compagnies de sapeurs pendant la guerre. Voilà, donc il y a une sorte d'auscultation au fond des structures souterraines, et ça c'est fascinant en fait.
On est donc dans son esprit depuis le début du récit. On voit bien ce qui se déclenche au moment où cette taupe entend le son, c'est-à-dire ce qui était déjà là, à savoir un mécanisme de paranoïa. Mais par exemple, le traducteur Bernard Lortolari parle, lui, dans son avant-propos, de névrose obsessionnelle. C'est de mettre en place des stratégies, c'est-à-dire l'obsession. Pour lui, c'est d'avoir un nid douillet, on pourrait dire, d'avoir un chez-soi protégé de tout. Cette obsession, il la contre avec des actions compulsives, donc avec des rites, des rituels qui prennent la forme d'hypothèses. Donc, si je fais ça, cela va entraîner telle conséquence et ça va me permettre d'être protégé à tel endroit. Mais si je fais ça aussi, ça voudra dire que telle galerie sera laissée en l'état. Par exemple, on découvre qu'il a une place forte, qu'il a plusieurs galeries, plusieurs points où il met ses provisions. La grande question dans une partie du récit, la première, c'est quand même de savoir où va-t-il mettre ses provisions ? Car s'il les met dans la place forte, elles peuvent être pillées d'un coup. S'il les met ailleurs, ça peut l'empêcher de partir en courant s'il est attaqué. Voilà, c'est quand même le type de récit qu'on a, un type de récit obsessionnel, où en fait, cet esprit torturé dans lequel on est, nous mène face, de la même manière qu'à le paradoxe du chez-soi qui est menaçant, c'est la raison, parce qu'il est tout à fait logique, mais la folie de la raison dans ce texte.
Alors, comme vous le dites très justement, et on l'a entendu hein, dans le passage qui a été lu de façon très belle d'ailleurs.
Par Nicolas Berger, notre réalisateur, je le
oui.
signale.
Merci. Oui, ce bruit, au fond, il est perceptible uniquement par, dit le narrateur, par le maître de maison.
Oui.
C'est-à-dire que ce bruit, probablement, il était déjà là, et c'est pas seulement un bruit dans le chez-soi, c'est pas seulement un bruit qui arrive ou qui fait irruption dans le chez-soi, dans la maison, mais c'est presque comme si c'était le bruit de la maison, ou le bruit du chez-soi, le bruit du fait d'être chez-soi, en fait. Et là, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, dans le sens où, ça c'est Derrida, j'en parlais tout à l'heure, qui dit un peu ça dans son séminaire sur l'hospitalité, quand il parle de ce récit. Il y a quelque chose d'immunitaire, évidemment, dans ce récit. C'est-à-dire, il faut que le chez-soi soit le lieu de parfaitement défendu, protégé, comme une immunité totale, comme si c'était une espèce d'étanchéité du chez-soi. D'où toutes ces dispositions obsessionnelles de il faut fermer, mais si on ferme simplement, c'est pas complètement étanche, donc il faut fermer deux fois, plutôt deux fois qu'une, etc.
Et si on ferme, on ne peut pas s'enfuir non plus.
Voilà, voilà.
Ouais, tout se contredit finalement.
Exactement. Et alors c'est là que Derrida a cette idée qui est absolument géniale, qu'il a formulée plus tard, mais qui est d'une certaine manière était déjà présente quand il lisait ce texte dans son séminaire. C'était en 96 que j'assistais à ce séminaire. C'est l'idée de l'auto-immunité. Ce qu'il appelle l'auto-immunité, c'est en fait une immunité contre laquelle il faut se défendre, parce que justement, si on ferme complètement le terrier, si pour garder cet exemple, si tout devient étanche, alors on y est enfermé, c'est la mort finalement. Donc il faut qu'il y ait non seulement de l'immunité, évidemment, parce que sinon le terrier serait envahi par tout ce qui passe, mais il faut une auto-immunité, c'est-à-dire il faut se défendre contre la défense même. Il faut que le terrier garde une espèce d'ouverture. Il faut se garder de ce qui nous garde, au fond, quelque chose comme ça.
Et d'ailleurs, très intéressant, Peter Zendi, parce qu'il parle lui-même d'aération ou de respiration du terrier. Il dit, quand il entend ce bruit, et donc il part à la recherche de manière un peu erratique de l'origine du bruit, pensant que c'est des bestioles, et il dit, mais finalement, ça me permettra en même temps, peut-être de continuer à creuser cette galerie que des bestioles ont peut-être commencé à creuser pour faire de l'aération, parce qu'il parle de souffle léger. Donc on voit bien effectivement qu'il y a tout un balancier, mais qu'on retrouve à plein moment de notre vie, en fait, entre l'immunité et l'auto-immunité.
Oui, en écoutant le texte lu à voix haute, ce que j'aime beaucoup, il y a ce mot de trancher qui m'a frappé. Bon, ça marche en français, mais dans la traduction française, mais pas en allemand. Et je l'ai presque entendu comme la trachée.
Ah,
et
oui.
Je me disais, voilà, finalement, si on suit l'hypothèse qui est pas la mienne, qui a souvent été dite, que ce récit est une sorte d'allégorie du corps, en fait, hein, du corps propre dans lequel on est chez soi et qui est menacé par toutes sortes d'attaques, mais aussi qui est menacé de l'intérieur. C'est-à-dire que cette sonorité, ce sifflement, etc., ça peut être ce qui, dans le corps lui-même, finit par menacer le corps. Et du coup, voilà, je pensais par exemple à tous les bruits respiratoires dont on parlait un peu tout à l'heure. Et là, entre la tranchée et la trachée, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la nécessité de la circulation à l'intérieur du corps. Il faut qu'il y ait de l'air qui circule. Et en même temps, cet air, ben, c'est justement ce qui apporte toutes les menaces. Mais il faut le laisser entrer. Et donc, c'est finalement être chez soi, c'est cette constante négociation entre une porosité et une étanchéité. étanchéité contre laquelle il faut se protéger aussi, parce que s'enfermer, c'est justement ne plus respirer.
Alors, cette irruption du son, elle permet aussi de questionner le silence d'une maison. Le silence d'une maison, c'est très paradoxal. Déjà, le silence en tant que tel est paradoxal parce que peut-il être total? Le silence lui-même n'a-t-il pas un bruit? N'est-il pas assourdissant? Je pense par exemple quand on est habitué à dormir avec des bruits de la ville, arriver dans un endroit où il n'y a pas de bruit peut être presque plus oppressant qu'un bruit de sirène dans la rue ou des bruits de pas. Là, le silence, on retrouve aussi cette dimension-là. C'est-à-dire, est-ce qu'un jour, le silence peut-il exister? Comment ça se fait, Peter Zandi, que parfois on n'entende pas des bruits, qu'on parvienne à des formes de silence très précaires?
Alors, le silence, c'est une question en général fascinante, et en particulier dans ce récit. D'abord, la question du silence, c'est tout simplement, est-ce qu'il y en a?
Est-ce qu'il existe?
Bon, là, il y a un morceau, une œuvre, et puis aussi une anecdote très connue, mais toujours intéressante à rappeler, de John Cage, hein, le compositeur de musique. Il a écrit une pièce qui s'appelle 4 minutes 33, et qui est 4 minutes 33 de silence, pratiquement. Mais c'est en réalité pas du tout un silence, puisque ces 4 minutes 33, c'est une sorte de temps vide qui accueille, en fait, tous les bruits qui peuvent se passer dans cet intervalle de temps. Et au fond, l'expérience dont John Cage s'est inspiré, c'est la visite de ce qu'on appelle une chambre sourde, une chambre anéchoïque dans laquelle il n'y a pas d'écho.
Vous en avez visité une ?
Oui, il y en a une qu'on peut visiter à l'IRCAM où j'ai longtemps travaillé.
C'est horrible, non ?
Alors, c'est assez déstabilisant parce que, et c'était justement ça l'expérience de Cage, c'est qu'on n'entend effectivement rien, mais du coup, tout ce qu'on entend, c'est les bruits qui viennent de l'intérieur du corps. Ouais. On entend la circulation du sang, qui est une espèce de chuintement, qui est d'ailleurs assez proche peut-être de ce qui se passe dans le récit de Kafka. On entend, on entend tout ce qui vient de l'intérieur du corps. Et donc, du silence, de ce point de vue-là, il n'y en a pas. Mais il y a une autre chose qui est très intrigante dans cette nouvelle, très dérangeante aussi, c'est que le silence, ça peut être le silence qui signale que l'autre m'écoute. Parce que si l'autre ne m'écoutait pas, si l'animal qui creuse vers moi dans le terrier ne m'écoutait pas, alors il creuserait. Mais si, et je l'entendrais creuser. Par contre, si je n'entends rien, s'il y a du silence, peut-être ça veut dire que l'autre animal s'est arrêté pour m'écouter. Donc en fait, le silence, la valeur du silence est d'une instabilité folle. Ça peut vouloir dire que tout est tranquille, que rien ne se passe, mais ça peut aussi vouloir dire que l'autre est là, immobile, à m'écouter, ce qui serait la menace suprême. Donc c'est moi je trouve fascinant cette oscillation du silence entre la positivité absolue et cette négativité
totale. Moi, ce que je trouve fascinant aussi, c'est que le silence, on puisse l'entendre ou pas. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Ma mère siffle tout le temps. Moi, je ne l'entends plus au bout de...
La mienne aussi.
Voilà. Au bout de 40 ans, je ne l'entends plus. Mais mon compagnon me l'a signalé. Et depuis, je l'entends à nouveau. Comment ça se fait que le silence ne soit pas total, mais surtout, comment ça se fait qu'on parvienne malgré tout à en construire un? Et qu'on puisse à certains moments, moi je trouve ça presque angoissant de se dire ça, c'est-à-dire que se dire mais en fait comment ça se fait que des bruits nous échappent, pas seulement que ce soit le signe d'une autre présence qui nous écoute, mais de présence que l'on n'entende pas.
Oui, c'est que en fait l'écoute dans son intentionnalité est vraiment capable de créer des choses. Il y a un fragment magnifique de Nietzsche là-dessus où il dit que finalement écouter ça veut dire deviner et fictionner. C'est-à-dire que
l'imagination, la folie de l'imagination.
C'est ça, voilà, ce qu'on entend vraiment, c'est finalement peu de choses par rapport à ce qu'on projette, ce qu'on construit, ce qu'on fictionne. Et donc on peut tout à fait éliminer des bruits, heureusement d'ailleurs, parce que souvent on croit qu'on est dans le silence, on se concentre, on travaille, on pense, et puis il suffit, comme dans ce que vous racontez, que quelqu'un attire votre attention sur un bruit que vous aviez pas remarqué ou qui est passé à l'arrière-plan, qui est devenu tellement une partie de votre paysage sonore quotidien que vous l'entendez plus. Mais alors là, tout d'un coup, ce bruit devient omniprésent, on n'entend plus que ça, et ça devient
absolument... Et c'est là où c'est la folie aussi. Oui. On va écouter la fin du texte de Kafka, Peter Zandi, justement ce mot moment que vous décrivez très bien, où voilà, l'écoute, ce n'est pas que la paix, mais c'est aussi une menace sourde, peut-être, qui pointe.
L'animal semble très éloigné. S'il s'éloignait, ne fût-ce qu'un peu davantage, sans doute le bruit disparaîtrait-il. Peut-être alors que tout pourrait encore s'arranger comme au bon vieux temps. Ce ne serait plus alors qu'une mauvaise expérience, mais bénéfique, elle m'inciterait aux améliorations les plus diverses. Si j'ai le calme et que le danger ne menace pas directement, je suis encore tout à fait capable d'exécuter un travail considérable et divers. Peut-être qu'au vu des possibilités énormes qu'il paraît avoir du fait de sa puissance de travail, l'animal renoncera à étendre son terrier dans la direction du mien et se dédommagera d'un autre côté. Cela non plus, naturellement, ne saurait résulter de négociations, mais uniquement de la propre intelligence de l'animal ou d'une contrainte exercée de ma part. Dans un cas comme dans l'autre, tout dépendra si l'animal connaît mon existence et de ce qu'il sait de moi. Plus j'y réfléchis, plus il me paraît invraisemblable que l'animal m'ait entendu. Il est possible, même si je ne puis m'imaginer comment, qu'il ait par ailleurs sur moi quelques informations, mais certainement il ne m'a pas entendu. Tant que je ne soupçonnais pas son existence, il ne peut pas m'avoir entendu, car alors j'étais silencieux. Rien n'est plus silencieux que les retrouvailles avec le terrier. Ensuite, lorsque j'ai creusé, à titre d'expérience, sans doute aurait-il pu m'entendre, encore que ma façon de creuser soit très peu bruyante. Mais s'il m'avait entendu, je n'aurais pas pu ne pas m'en apercevoir aussi. Il aurait dû, pour le moins, s'arrêter plus souvent dans son travail pour écouter. Or, tout reste inchangé.
France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Ce sont les derniers mots du terrier de Kafka, lus par Nicolas Berger. On y retrouve ce que vous avez parfaitement décrit, Peter Zendi, à savoir ce concept que vous de surécoute, c'est-à-dire l'écoute qui s'écoute. On s'écoute en train de s'écouter, on écoute ce qu'un autre pourrait peut-être écouter. C'est bien ça.
Oui, la surécoute, c'est en fait un mot, en un seul mot, j'ai proposé ce mot pour essayer de traduire ce qu'on dit en anglais « overhearing », ça veut dire surprendre quelque chose à l'écoute, mais ça peut vouloir dire aussi, comme quand par exemple vous surprenez une conversation que vous n'êtes pas censé entendre, on surécoute quelque chose, mais ça peut aussi vouloir dire que c'est une écoute de surveillance, au fond. Si on pense à ce que Foucault a décrit comme le panoptique, cette espèce de vision omniprésente et qui surveille tout. Moi, je me suis beaucoup intéressé à l'équivalent possible en termes auditifs.
Donc un panopticon auditif.
Voilà, ce que j'ai proposé d'appeler un panacoustique, le panacousticon. D'ailleurs, dans le commentaire que donne Foucault du fameux dispositif des prisons, théorisé par Jeremy Bentham, à la fin du XVIIIe siècle, justement le panopticon, il y a quelques petites remarques qui, moi, m'ont beaucoup intrigué, et chez Bentham, d'ailleurs, lui-même, et aussi dans le commentaire qu'en donne Foucault dans Surveiller et punir, quelques petits commentaires sur la dimension auditive. Et on peut rapprocher tout à fait ça du récit de Kafka qui nous obsède, là. Parce que la question, à l'époque, donc on est à la fin du XVIIIe siècle, quand Jeremy Bentham parle de ces prisons panoptiques où on voit tout, il y a une tour centrale, les prisonniers sont dans des cellules autour et le gardien qui est dans la tour centrale voit absolument tout le temps, ce qui est d'ailleurs est censé rendre la présence du gardien inutile parce que tout simplement les prisonniers imaginent qu'ils sont tout le temps sous surveillance et donc ils sont censés bien se comporter. C'est le côté, disons, utilitariste de ces prisons. Mais le problème, c'est que ça marche seulement si les prisonniers pensent qu'ils sont surveillés, mais sont pas dans la mesure d'établir si oui ou non il y a un gardien. Voilà. C'est un peu comme aujourd'hui, bon, il y a des caméras de surveillance partout, on sait pas s'il y a quelqu'un qui regarde, mais le simple fait qu'il y en ait, c'est censé suffire à discipliner les gens.
De la même manière, les téléphones portables qui peuvent filmer des interventions de tout type ou des scènes dans la rue font qu'effectivement la surveillance prend une autre dimension.
Oui, et en même temps, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire on est censé intérioriser la surveillance,
oui, c'est ça.
Et donc se discipliner soi-même.
Voilà, c'est une forme de censure de soi-même, de discipline de soi-même.
Mais à l'époque de ces prisons panoptiques dont parle Bentham, finalement il n'y avait pas de micro, par exemple, il n'y avait pas d'enregistrement, d'amplification du son, et donc Bentham dit explicitement, ça c'est très intéressant, que donc il y avait des tuyaux acoustiques dans cette prison qui reliaient la tour centrale aux cellules des prisonniers. Et le problème de ces tuyaux acoustiques, c'est que le prisonnier entend le gardien, ou si le gardien entend le prisonnier, ce qui était le but apparemment, ben, l'inverse est possible aussi. C'est-à-dire, dès que l'un des deux qui écoute fait un petit bruit, l'autre sait qu'il est écouté. Donc en fait, ça, cette dissymétrie qui est censée assurer le pouvoir de la surveillance, ça marche pas dans le cas de l'écoute. Du moins, ça marche pas avant l'invention de l'amplification. Voilà.
Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez un rapport apaisé à l'écoute, Peter Zendy? Est-ce que vous trouvez que c'est un lieu d'angoisse? Parce que voilà, vous parlez, je peux citer par exemple votre livre de 2007, Surécoute, esthétique de l'espionnage. On a parlé de la figure de la taupe, on pourrait aussi parler de la figure du bug. Hein. C'est donc cette bestiole d'ailleurs que rencontre la taupe, enfin, ou que craint de rencontrer la taupe qu'elle soupçonne. On a l'impression en fait que l'écoute a une dimension plus inquiétante qu'apaisante. Alors que écouter quelqu'un, on pourrait être bercé. Vous avez parlé par exemple de votre père qui vous raconte des histoires. C'est le fait de raconter des histoires, c'est le fait d'entendre aussi une musique qui nous berce, c'est le fait d'entendre des bruits qui tout à coup sont en fait des signaux familiers. Par exemple, les bruits d'une maison peuvent être inquiétants pour certains, mais le craquement d'un parquet peut être le signe qu'on est chez soi. Quel est votre rapport en fait à l'écoute ?
C'est une belle question. C'est vrai que je pense que mon rapport à l'écoute a été formé, construit, façonné par probablement par des expériences personnelles, mais aussi par un certain nombre de lectures. Je pense en particulier à un très beau fragment de Nietzsche. Dans Aurore, je crois, où il parle de la musique comme d'un art de la nuit, et il parle de l'écoute, de l'oreille en fait, comme d'un organe de la peur qui s'est développé dans le plus long, je cite vaguement de mémoire, au cours du plus long des âges humains, qui est l'âge des cavernes, l'âge de la peur. Voilà. Alors moi, je voudrais pas dire que l'écoute est uniquement une source d'angoisse, loin de là. L'écoute est une source immense de joie, de bonheur. Mais au fond, je pense que ce qui m'intéresse, c'est pas tellement la peur, mais c'est le qui-vive. C'est-à-dire, c'est le moment de l'éveil, quoi.
Le moment où le bruit surgit, comme
voilà,
le plateau.
Voilà. Donc, c'est ce qui m'intéresse dans l'écoute. Et d'ailleurs, écoute, un terme qu'on peut distinguer de entendre. Écouter, c'est pas la même chose qu'entendre, c'est pas la même chose que ouïr. Dans l'écoute, il y a quelque chose de l'ordre d'une attention éveillée. L'écoute, c'est au fond le moment où on attend, où on se tend, en fait. On est tendu vers le surgissement de quelque chose. Donc il y a une tension. D'ailleurs, la tension, qui est pas forcément négative, hein, tension en grec, ça se disait tonos. C'est de là que vient
tonus.
Le ton, le tonus, mais aussi le ton, l'intonation. C'est en musique, ben, il faut qu'il y ait de la tension pour qu'une corde vibre, pour qu'il y ait du son. La vibration sonore, ça vient de la tension. Et donc pour moi, l'écoute est liée à cette tension vers ce qui va venir. Bien sûr, cette tension, elle peut basculer d'un côté ou de l'autre, mais enfin, fondamentalement, c'est ça qui m'intéresse. Ouais.
Il y a une hypothèse qui n'est pas évoquée dans le conte de Kafka, mais je rappelle quand même qu'il est inachevé, c'est que le son, le bruit que la taupe entend ne vienne ni de bestioles, ni d'un voisin qu'il soupçonne, mais de lui-même. Si je vous ai demandé si vous aviez un rapport apaisé à l'écoute, Peter Zendy, c'est parce que effectivement, le fait de se demander ce que l'on fait quand on écoute nous pose à nous interroger sur un acte que l'on fait sans se poser de questions et peut ouvrir sur des formes d'abîme comme entendre des sons. Voilà, l'écoute, l'ouïe, ça peut devenir vraiment la porte ouverte à des fantasmes, comme vous avez très bien cité Nietzsche tout à l'heure, et le silence. C'est-à-dire qu'on entend des bruits, On a peur d'entendre des voix, on a peur d'être commandé à l'intérieur de soi. Un acouphène, c'est très bizarre un acouphène, les médecins ne savent pas comment les soigner. Ils nous disent qu'il faut écouter un autre son pour effacer ce son-là. Parfois on ne sait pas si on l'entend ou si on l'entend pas. Enfin, c'est vraiment l'exposition à une forme de dissociation de soi.
Alors, c'est vrai que quand on écoute, on est d'une certaine manière complètement happé, pris par ce qu'on écoute, de la musique, du discours. Moi, je pense souvent à l'écoute psychanalytique aussi, qui est quelque chose que je trouve très fascinant, aussi parce qu'on se demande parfois comment les psychanalytes peuvent écouter autant.
Mais ils n'écoutent pas, en fait.
En fait,
ils écoutent d'une autre manière.
Freud avait théorisé ça dans un texte où il appelle ça l'écoute flottante. Enfin, en allemand, c'est schwebende Aufmerksamkeit. Ça veut dire, littéralement, c'est une attention flottante. Et donc, cette attention flottante, Freud l'avait théorisé en disant que, d'abord, pratiquement, on peut pas écouter des gens toute la journée, dans tous les détails, prêter l'oreille tout le temps. Donc, il faut qu'il y ait des moments de distraction. Et au fond, ce qui est fascinant dans cette idée de Freud, c'est que il dit que la distraction a quelque chose de presque de pas vraiment de créatif, mais enfin c'est dans le moment de distraction que l'écoute laisse surgir justement quelque chose qui n'était pas attendu, qui n'était pas déjà configuré. C'est là que au fond l'écoute devient presque inventive. C'est là que peut-être il faudrait le dire plutôt comme ça, c'est des événements d'écoute. Parce qu'il se passe pas toujours quelque chose, hein. Quand on écoute, on peut écouter plein de choses, des bruits de fond, il se passe absolument rien. Ça peut être la monotonie absolue. Mais s'il se produit un événement d'écoute, vraiment, c'est justement peut-être dans le moment, selon Freud, où on n'attend pas, où on n'a pas déjà configuré d'avance ce qui va se produire. Et pourtant, c'est ça qui est paradoxal et intriguant. C'est le moment où on n'attend rien. C'est le moment où il y a quand même cette tension qui laisse venir, quoi. Voilà, laisser venir sans rien attendre, c'est au fond ça la question de l'écoute.
Contre d'ailleurs un peu tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui sur la perte d'attention à cause des multiples sollicitations, on pourrait presque dire que l'écoute nous permet aussi presque de se détendre sur l'attention. C'est-à-dire, on ne pourra pas tout entendre, on ne peut pas être attentif en permanence. Les moments de relâchement sont précisément conçus peut-être, enfin pas volontairement, pas intentionnellement, mais comme des conditions de possibilité d'une attention ou d'un éveil.
Oui, moi je pense souvent au fait que l'écoute est fondamentalement finie dans le sens où il y a de la finitude dans l'écoute. On peut pas tout entendre, la panne acoustique n'existe pas, c'est un grand fantasme, hein, tout entendre, mais c'est justement pas possible. Et donc, prêter l'oreille, prêter attention, c'est toujours faire un choix inconscient, un choix qui affleure même pas à la surface de notre conscience, qui se fait à chaque seconde, à chaque instant, mais c'est faire un choix qui est une responsabilité, en fait. Pourquoi j'écoute ça plutôt qu'autre chose qui se passe en même temps? Et donc cette finitude de l'écoute, c'est ce qui nous accompagne à chaque seconde, et c'est ce qui fait que finalement l'écoute est toujours à la fois un entendre et un ne pas entendre.
Mais parfois on choisit pas.
On choisit pas, en fait.
C'est ça qui rend fou aussi avec l'écoute. C'est qu'il y a des bruits qui s'imposent et on ne veut pas les entendre, mais on les entend.
Alors, c'est vrai qu'il y a aussi cette dimension, on passe effectivement dans un autre domaine, enfin, la dimension du traumatisme, ouais, d'écoute aussi. C'est vrai que le trauma, enfin, il y a des sons qui sont, comment dire, qui nous envahissent tellement, qui laissent aussi des traces indélébiles parfois, enfin, qui produisent des acouphènes, qui produisent des sifflements résiduels qui laissent vraiment qui blesse en fait l'organe auditif. Bon, ça c'est vraiment une autre question aussi.
On va écouter la voix d'un philosophe que vous avez cité à plusieurs reprises ici, Peter Zendi, c'est la voix de Jacques Derrida.
Je n'ai pas appris l'art de l'interview, parce que les interviews auxquelles je suis exposé ou livré sont toujours des interviews au sujet de textes qui, eux, obéissent à un tout autre régime. S'il s'agissait d'interviews sur des choses qui ne sont pas encore écrites, ou des faits ou des expériences qu'on raconte dans une conversation, ce serait sans doute différent. Mais je sais que les interviews qu'on me propose, le prétexte en est toujours un livre écrit dans une langue et à un rythme et selon des normes totalement hétérogènes à celles de l'interview. Donc elle a une traduction et une pédagogie aussi, puisque dans l'interview radiophonique en particulier, on parle la nuit à un auditoire plus indéterminé que jamais, composé de gens dont on se dit qu'ils vous entendent pour la première fois, ou ils ne savent rien de ce que vous écrivez, et donc il faut s'adresser à eux, tout en s'adressant à d'autres qui sont plus proches ou plus prévenus.
17 décembre 2001, surpris par la nuit sur France Culture, une émission donc diffusée la nuit. On y entend Jacques Derrida y faire référence. On parle de l'écoute depuis tout à l'heure, Peter Zandi. En un instant assez court, ici on est à la radio. Donc, on parle pas pareil, on s'écoute pas pareil ici. Et les auditeurs qui écoutent cette émission en direct ou en replay, en podcast, que sais-je, font autre chose en même temps.
J'étais très frappé par ce que dit Jacques Derrida à un moment, qui est l'art de l'interview. Oui. Et c'est vrai qu'il y a un art, il y a des grands intervieweurs, je pense en particulier, puisqu'il s'agit de Surpris par la nuit, à Alain Weinstein. Oui. Mais il y a aussi, je pense que cet art de l'interview, c'est en grande partie un art de l'écoute, et pas seulement, comme on pourrait le croire, écouter la personne qui est interviewée, mais c'est une écoute réciproque. Et ça se passe dans les deux sens. En fait, cette extrait, bon, qui m'a beaucoup ému aussi d'entendre la voix de Derrida.
Il a une voix particulière.
Oui, oui, oui.
Ça, c'est intéressant aussi, la voix. Ben, vous avez d'ailleurs travaillé sur la voix aussi.
Oui. Et puis, ça m'a rappelé aussi des moments, moi-même, dans Surpris par la nuit, avec Alain Weinstein, où c'était très, très étrange, parce qu'on enregistrait finalement le matin, ou plutôt vers midi, mais on savait que ce serait la nuit.
Oui, donc ça met dans une disposition différente.
C'est ça. Et ça configure aussi une certaine écoute nocturne, même si on est le matin. Mais ça m'a rappelé un passage sur lequel je suis tombé assez récemment chez Plutarque, l'auteur antique, dans un petit traité de Plutarque sur l'écoute, où il a cette image incroyable. Et je pense que ça vaut beaucoup pour la situation de l'interview et pour le type d'écoute qui se produit dans l'interview. Il dit que finalement, entre un orateur et la personne qui écoute l'orateur, donc il s'agit plutôt de discours longs, mais je crois que même dans un dialogue serré comme l'interview, ça vaut aussi. Il y a une espèce de synergie, c'est son mot, une synergie qui est comme entre deux personnes qui jouent au ballon, qui se lancent la balle. Et donc, il dit qu'il y a il parle même d'une eurythmie, c'est-à-dire un rythme juste entre la personne qui se prépare à recevoir la balle et celle qui s'apprête à la lancer. Et les deux se déterminent réciproquement. C'est-à-dire, je pense que c'est ça dont il s'agit dans l'écoute de l'interview. C'est au fond cette co-détermination, vraiment le mot synergie dont on parle.
Et même aussi dans une conversation ordinaire, on pourrait se dire d'une certaine manière.
Fait.
Sauf qu'il y a moins de responsabilités. On pourrait se dire, voilà, il y a moins d'idées de pédagogie, comme le disait Derrida.
Probablement, l'interview serait l'intensification de ce qui est en jeu dans la conversation ordinaire, c'est-à-dire un certain type d'écoute réciproque et de configuration réciproque par l'écoute de l'autre, au fond. Oui.
À mon âge, hein, je me dis, c'est pas la première fois qu'il y a des périodes pauvres, quoi. J'ai vécu la libération, ça. La libération, c'était la période, une des périodes les plus riches qu'on puisse imaginer. On découvrait, on redécouvrait tout. Le roman américain, Kafka, il y avait la grande polémique, faut-il brûler Kafka? Tout ça, ça paraît un peu enfantin aujourd'hui, mais c'était vraiment une atmosphère créatrice, c'était une atmosphère... C'est ça l'embêtant dans les périodes. Quand les choses disparaissent, personne s'en aperçoit. Pour une raison simple, c'est que quand quelque chose disparaît, ça ne manque pas. Par définition, un grand auteur ou un génie, c'est quelqu'un qui apporte quelque chose de nouveau. Si ce nouveau n'apparaît pas, ça gêne personne, ça manque à personne, puisqu'on n'en avait aucune idée. Si Kafka n'avait pas été publié, on ne peut pas dire que Kafka manquerait. Si l'autre avait brûlé tout Kafka, personne ne pourrait dire « Ah, comme ça nous manque, puisqu'on n'aurait aucune idée de ce qui a disparu.
Une fois n'est pas coutume, Peter Zandi, non pas une chanson, mais une archive, celle de la voix de Gilles Deleuze, pour évoquer donc non pas l'œuvre qui a transformé votre vie, mais un auteur que vous n'aimez pas ou qui vous résiste. Donc cette voix de Gilles Deleuze qui pourtant lui-même a travaillé sur Kafka.
Alors, c'est pas du tout que j'aime pas Deleuze, c'est presque que je l'aime trop, mais c'est vrai qu'il me résiste énormément. Bizarrement, je crois que c'est l'auteur avec lequel j'ai cette expérience paradoxale de la manière la plus forte qui soit. C'est-à-dire, plus je le lis, moins je le comprends de manière immédiate. Voilà.
Ce qui se passe parfois avec l'écoute, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Voilà, c'est comme si lire Deleuze... Alors, pour moi, c'est vraiment une question de vitesse. J'ai beaucoup lu Deleuze quand j'avais, je sais pas, entre 25 et 30 ans, et je le lisais vite, avec une espèce de fluidité. Mmh. Et ça me plaisait beaucoup d'ailleurs. Et puis à un certain moment, je me suis retrouvé à devoir enseigner certains textes de Deleuze, notamment ces textes sur le cinéma. Et j'avais vraiment cette expérience incroyablement difficile d'expliquer pour moi-même ou aux personnes qui m'écoutaient, d'expliquer comment on passe d'une phrase à une autre. Et c'était comme si ce passage était tellement rapide que pour en rendre compte, il fallait ralentir à tel point et convoquer tellement de choses que ça devenait une espèce lire Deleuze, lire pour d'autres, disons, en transmettant cette lecture, ça devenait comme une espèce de surplace où pour avancer, il fallait énormément d'énergie. Voilà. Et en même temps, lire Deleuze, c'est aussi cette expérience de la légèreté, d'une certaine écriture, voilà. Mais ça m'a frappé beaucoup, là, en écoutant sa voix, là, c'était dans l'abécédaire.
Oui, c'est assez voilà. Comme culture.
Voilà. Et donc, dans l'abécédaire, on a une certaine expérience en l'écoutant d'une vitesse de croisière presque de la pensée. Il y a un certain confort. Il explique. Et puis, tout d'un coup, de temps en temps, il y a des moments d'accélération tellement intense que là, on a presque sous nos yeux cette espèce de folie de la pensée chez Deleuze qui tout d'un coup accélère. Et là, il y a l'étincelle créatrice en quelque sorte. Voilà, c'est très fascinant. Et puis je me disais aussi en écoutant sa voix qu'il y a ces moments où elle baisse. Bon, là, il est assez âgé, il y a des problèmes respiratoires aussi qu'on entend.
Oui, on l'entend beaucoup. D'ailleurs, tousser, se racler la gorge pendant l'abécédaire, pendant ces entretiens avec
Mais je crois qu'il y a aussi, c'est une question d'intonation. Il y a ces moments où sa voix baisse et c'est presque, puisqu'on a beaucoup parlé du terrier, c'est presque comme s'il y avait des trous ou des galeries souterraines tout d'un coup, comme si Deleuze, en parlant, plongeait dans une espèce de galerie souterraine et on l'entend presque plus en même temps qu'il parle. Ça, c'est des moments très, très étonnants que j'aime beaucoup chez lui.
Merci beaucoup, Peter Zandi. De vous, on peut lire Faire au cinéma aux éditions Bayard. C'est dans la collection des petites conférences avec Laura Odello. Vous avez coécrit La Voix, par ailleurs, Ventriloquie, Bégaiement et Autres accidents. Les éditions de Minuit, on en a très vite parlé quand on a entendu la voix de Jacques Derrida. Et on a aussi parlé de vos travaux sur l'écoute. Il y a Écoute, une histoire de nos oreilles ou Surécoute, esthétique de l'espionnage. Les deux sont disponibles aux éditions de Minuit. Et pour lire Le Terrier de Kafka, eh bien, vous pouvez le trouver aux éditions des Mille et une nuits dans la traduction de Dominique Miremont. Et un grand merci à Manon Delasselle qui a préparé l'émission, à Nicolas Berger à la réalisation mais aussi à la lecture des textes, à Noé Chaban à la prise de son. Toutes les émissions du Souffle de la Pensée sont disponibles sur le site et sur l'application Radio France.